Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous si vous nous retrouvez en direct avec le journal dans un instant. 19h15, carte blanche de l'écrivain Philippe Besson. Et puis à 19h20, grand débat ce soir sur nos retraites. Travailler plus jusqu'à 64 ans. Le gouvernement hésiterait à passer en force, mais la question est sur la table. On en parlera donc ce soir très largement avec nos invités. D'abord le journal avec Rémi Botsaron. 19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
La France face à la Suisse, c'est dans un peu moins de 2 heures maintenant, 8e de finale de l'Euro de football à Bucarest. Attention au piège pour les Bleus, vous entendrez les supporters suisses bien décidés à voir tomber leur grand voisin.
Le message très clair envoyé par Emmanuel Macron ce soir dans une interview accordée au magazine Elle, non, il n'a pas l'intention de se séparer de son Premier ministre, Jean Castex.
Emmanuel Macron qui pourrait s'attaquer à la réforme des retraites avant la fin du quinquennat. Plusieurs poids lourds de l'exécutif veulent ouvrir ce chantier ultra sensible.
L'affaire Troadec et le récit confus et glaçant d'Hubert Caouissin devant la cour d'assises de Nantes.
Et puis le Tour de France, et encore une fois des chutes aujourd'hui. 3 grands favoris ont perdu du temps entre Pontivy et Lorient.
La météo avec Anissa Haddadi, de la fraîcheur et des orages au programme demain.
Oui, nous n'aurons pas d'amélioration côté météo demain avec toujours beaucoup de vent, des nuages, des averses et des orages. Les températures sont dans certaines régions bien en dessous des normales de saison. Et toujours 11 départements vigilance orange aux orages actuellement. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une affiche déséquilibrée sur le papier, mais on sait que sur le terrain, ça peut être bien différent.
Oui, la France, grande favorite du championnat d'Europe de football, affronte donc ce soir la Suisse en 8e de finale.
Coup d'envoi à 21h à Bucarest. Jean-François Perez, vous êtes en Roumanie pour Europe 1. On l'a dit, les Bleus semblent supérieurs aux Suisses, mais après une phase de groupe un peu hésitante, ils nourrissent peut-être quelques doutes.
Oui, en effet, il y a des doutes ce soir avant ce match 8e de finale contre la Suisse parce que l'équipe de France, certes, a terminé première de son groupe avec seulement 5 points, une victoire, 2 matchs nuls. On l'a dit, de nombreux blessés, la chaleur qui a beaucoup joué sur les corps. Depuis que les Bleus sont à Bucarest, on ne les a pas beaucoup vus. Ils ont annulé une journée, un entraînement. Le deuxième, l'entraînement était à huis clos. On semble ce soir s'orienter vers un changement tactique avec une défense à 3, ce qui n'est jamais forcément très bon en pleine compétition, d'autant plus pour un match à élimination directe comme celui de ce soir face aux Suisses. Donc pour toutes ces raisons, on attend ce match avec impatience évidemment, avec un peu d'appréhension aussi ce soir, sachant qu'à l'instant même on voit le bus de l'équipe de France qui est en train de fendre le trafic et les rues de Bucarest pour venir ici au stade, l'arène nationale, magnifique stade de 55 000 spectateurs qui sera entre guillemets seulement rempli ce soir de 25 000 spectateurs. La jauge de spectateurs a été portée à 25 000 et il y aura environ 2000 Français qui seront présents pour pousser les Bleus jusqu'en quart de finale, on l'espère, ce soir donc face à la Suisse.
Merci Jean-François Perez et vous nous ferez vivre ce match évidemment avec Cyril de la Morinerie à partir de 21h en intégralité.
Oui, il n'y a pas qu'en France qu'on va suivre fiévreusement ce match ce soir de l'autre côté de la frontière. On se prépare également.
Et les Suisses qui connaissent bien leurs grands voisins sont bien décidés à le renverser. Ce soir, le chambrage est en préparation, surtout dans les villes frontalière, notamment à Genève où Simon Rubin a rencontré ses supporters.
Les Suisses, ils sont motivés clairement, donc ils ont envie de gagner, ils vont donner ce qu'ils ont. Et si, est-ce qu'ils vont gagner, ça on sait pas.
Absolute.
Les Français ils sont chauds, clairement.
Ils aiment bien narguer les petits Suisses, mais les petits Suisses, en espérant qu'ils ont bien mangé du bon fromage, prend une belle qualité de jeu ce match et voilà, j'espère une belle reprise de Shaqiri. Et...
Vous avez vu quand même qu'il y a une bonne partie de l'équipe de France qui est un peu blessée, voire on a quasiment plus de couloir gauche.
J'ai entendu pour
il y a des, parler, y a des ouais. signes aussi un peu positifs, non?
Donc oui, il y a des statistiques qui font que la Suisse a une chance de gagner.
On supporte la Suisse jusqu'au bout et comme vous avez dit, on a quelques espérances par rapport aux blessures des joueurs. Hop Suisse quoi.
Hop Suisse, des supporters suisses rencontrés donc par Simon Rubin à Genève.
Et si les Français s'imposent ce soir, ils rencontreront donc en quart de finale la Croatie ou l'Espagne qui s'affronte en ce moment à Séville et pour l'instant match nul, un partout.
Et quel que soit l'adversaire des Bleus, ce match aura lieu ce quart de finale à Saint-Pétersbourg vendredi. Saint-Pétersbourg submergé en ce moment par le variant Delta du Covid. Nouveau record de décès annoncé aujourd'hui. Conséquence sur notre antenne tout à l'heure, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a pris position. Elle déconseille conseille aux supporters français de se rendre en Russie.
Au lendemain des élections régionales et départementales, Emmanuel Macron prend la parole ce soir dans le magazine Elle.
Et ce qu'on retient avant tout, Claudia Bertram, c'est cette annonce très claire. Le président de la République n'a pas l'intention de se séparer de son Premier ministre.
Oui, c'est ce qu'affirme Emmanuel Macron dans une interview au magazine Elle. Le chef de l'État est interrogé sur ses propos en mars 2017, alors candidat à la présidentielle. Lorsqu'il avait émis le souhait de voir une femme devenir Premier ministre, eh bien le chef de l'État assure qu'il assume toujours autant ses propos et il ajoute, je cite, « Je ne vais pas changer de Premier ministre. Les élections locales n'appellent pas de conséquences nationales et donc pas de changement de Premier ministre dans les prochains mois ou semaines. » Dans cette interview, dont seulement un extrait est publié ce soir sur le site de Elle, le chef de l'État est aussi interrogé sur l'abstention massive au premier tour des régionales. Et il le dit, l'abstention n'est pas une fatalité. Emmanuel Macron poursuit, la première explication, c'est le Covid-19. Ces élections sont arrivées à un moment où ce n'était pas le rythme du pays, dit le chef de l'État.
Merci Claudia Bertram, du service politique d'Europe 1.
Emmanuel Macron qui pourrait bien ouvrir un chantier très périlleux d'ici à la fin de son quinquennat.
Certains l'appellent la mère de toutes les réformes. La réforme des retraites pourrait revenir très rapidement dans l'actualité avec un passage de l'âge légal de 62 à 64 ans. Olivier Samin, c'est le journal Les Échos qui évoque aujourd'hui cette hypothèse. Le but de l'exécutif, ce serait sans doute de faire oublier l'échec des régionales en frappant un grand coup.
Le sujet divise encore dans l'entourage d'Emmanuel Macron, mais les partisans d'un signal très fort et très rapide sur cette question des retraites semblent prendre l'avantage. L'idée qu'ils défendent est la suivante. On oublie la réforme systémique annoncée au début du quinquennat, le système universel de retraite qui a provoqué tant d'opposition et qui est très compliqué à mettre en œuvre. Et on se concentre sur une mesure qui est, elle, très simple à mettre en œuvre et qui permettra d'économiser beaucoup d'argent très vite, le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite. La dernière fois, souvenez-vous, c'était en 2010, la réforme Woerth-Sarkozy. L'âge légal était passé progressivement de 60 à 62 ans. Là, on passerait de 62 à 64 ans, à un rythme plus rapide qu'en 2010. Le principe serait posé dès cet automne et la réforme se mettrait en œuvre lors du prochain quinquennat, avec un âge légal à 64 ans à l'horizon 2028 pour les générations nées après 1964. À ceux qui, dans la Macronie, pensent que c'est de la folie, à quelques mois de l'élection présidentielle, les partisans de cette réforme répondent que c'est au contraire le moment ou jamais pour couper l'herbe sous le pied de la droite, remise en selle par son succès au régional. Reste à savoir quelle sera la décision d'Emmanuel Macron, c'est lui, évidemment, qui devra trancher.
Merci Olivier Samin du service économie d'Europe.
Europe 1, Julien Bugier.
19h07, restez avec nous dans quelques secondes. L'affaire Troadec et le récit de la nuit d'horreur des meurtres par Hubert Caouissin.
Et puis le Tour de France et des chutes encore très nombreuses aujourd'hui.
À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal et on évoque donc la suite de ce procès de l'affaire Troadec.
Et un récit glaçant aujourd'hui aux assises de Loire-Atlantique à Nantes. Charles Guyard, Hubert Caouissin, le meurtrier présumé de la famille Troadec, a livré sa version des faits de la mise à mort jusqu'à la destruction des corps.
Oui, toute la journée, Hubert Caouissin a livré un long récit aussi détaillé sur certains points qu'émaillé de nombreux trous noirs. Et quand ce n'est pas la mémoire qui fait défaut, c'est le rationnel. En pénétrant avec lui dans la maison d'Orvault, puis dans le Finistère, pour sa version des faits, Hubert Caouissin embarque ainsi la cour dans son bien étrange psychisme. Après le quadruple meurtre, toujours qualifié d'accident, et au moment de charger le corps de Brigitte Troadec dans la voiture, celle-ci, morte depuis 24 heures au moins, lui a parlé. Du moins a-t-il échangé avec elle. Je lui dis que ce sont eux qui ont commencé, je lui demande pardon, puis j'éclate en sanglots. Même réflexe avec Charlotte et Sébastien. Et Pascal, je lui dis aussi pardon, mais je ne pleure pas, ça ne vient plus. J'étais sec, mais c'était sincère. À Pont-de-Buis, ensuite, il décharge les quatre cadavres sur une grande bâche et commence par s'occuper de celui de Sébastien. Puis se souvient s'être arrêté pour une pause déjeuner avant de reprendre. Il utilise alors un couteau à légumes et renonce à prendre une scie, car je sens que c'est mal, il ne faut pas abîmer les os. Mais arrivé à la dernière dépouille, celle de Pascal, il s'équipe quand même d'une pince à bois, ça va plus vite. Techniquement, ce sont des gestes simples, lance Caouissin à une présidente sidérée. Les fouilles ont permis de récolter 379 morceaux non brûlés, mais jetés dans la végétation. En revanche, les têtes, elles, demeurent introuvables, comme enfouies dans un trou noir.
Merci Charles Guyat, correspondant d'Europe 1 dans l'ouest de la France. C'est la fin de plusieurs années de batailles juridiques. La chasse à la glu est définitivement jugée illégale. Jugement rendu aujourd'hui par le Conseil d'État. Cette technique de chasse est jugée contraire au droit européen. Les dérogations accordées par l'État sont donc annulées. On prend la direction du Tour de France.
Le Tour de France. L'événement est sur Europe 1.
Et la troisième étape aujourd'hui, Victor, au sprint du Belge Tim Merlier à Lorient. Mais ce qu'on retient surtout, ce sont toutes ces chutes auxquelles on a encore une fois assisté. Les favoris Pogacar, Thomas, Roglic ont perdu du temps. Le français Brian Coquard est lui aussi tombé. Brian Coquard qui ne cache pas sa lassitude.
Je pense que je vais aller passer une radio. J'ai mal à la hanche. On verra. Je pense que j'ai dû tomber en troisième position. Je sais pas ce qui s'est passé devant, j'ai rien vu, mais en tout cas, voilà, je suis encore tombé. Comme tous les ans sur le Tour de France, la première semaine est super nerveuse, tout le monde va être placé, personne ne veut perdre de temps. Et bah finalement, voilà, on veut tous être placés au même endroit, au même moment. Donc c'est à celui qui freine le dernier et des fois ça fait chute. Ouais. C'est pas à moi de faire la polémique là-dessus. Voilà, il y a des chutes et j'ai rien d'autre à dire.
Le français Brian Coquard qui est tombé dans cette troisième étape entre Pontivy et Lorient, remportée par Tim Merlier cette étape. Et le néerlandais Mathieu Van Der Poel est toujours maillot jaune.
Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Energy, l'électricité et le gaz jusqu'à 10% moins cher. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
C'était le journal de Rémi Botsaron. Merci à vous Rémi. La météo avec Anissa Dadi, encore une journée bien orageuse demain Anissa.
Oui, entre l'Auvergne, le centre-est et le nord-est, toujours ces régions touchées par les orages comme actuellement hein, d'ailleurs. 11 départements entre le Puy-de-Dôme et la Bourgogne-Franche-Comté sont placés en vigilance orange aux orages. Alors les orages seront violents demain avec de fortes pluies sur des sols saturés, ce qui donc crée des inondations et des coulées de boue. Soyez très prudents dans l'est du pays. La journée de demain sera encore très humide avec des averses fortes sur les trois quarts de la France. Sur la façade est, encore de violents orages, vous le disais. En fait, seul le pourtour méditerranéen est sous le soleil demain, mais attention, le vent souffle fort jusqu'à 65 km/h. Les températures, 10 à 22 degrés demain matin, nous aurons 10 degrés à Vannes, 14 à Paris, 19 à Montpellier. Et au meilleur de la journée, 16 pour Aurillac, 17 à Boulogne-sur-Mer. C'est frais, hein, sont des températures dignes d'un début mai. 19 à La Rochelle, 20 à Paris et 30 degrés pour Marseille.
Merci ma chère Anissa, à demain.
À demain.
Vous restez avec nous 19h13 dans quelques secondes. Le débat du Club des Idées sur l'avenir de nos retraites. Sujet explosif mais ô combien important pour tout à chacun. D'abord la carte blanche de l'écrivain Philippe Besson.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Et je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir mon cher Philippe.
Bonsoir Julien.
Alors puisque cette saison touche bientôt à sa fin, vous avez décidé ce soir de dresser un bilan des mois écoulés. Et ce qui vous a frappé, c'est à quel point l'actualité semble très différente selon évidemment le regard qu'on choisit de porter sur elle.
Oui, alors les différences dans le traitement de l'information ne sont pas nouvelles. Hein, et les idéologies, les croyances, les partis pris, les préjugés structurent depuis longtemps nos débats. Pour autant, cette année, il me semble que le fossé s'est encore creusé et que la polarisation a atteint un degré presque caricatural.
Alors listons peut-être, Philippe, les sujets, si vous le voulez bien. Et à tout seigneur, tout honneur, commençons par le Covid.
Eh bien, les uns se demandent si le virus n'a pas été fabriqué en laboratoire, pointent la faillite des gouvernants et se plaignent d'une interminable privation des libertés. Quand les autres se félicitent que des vies aient été sauvées grâce au confinement et des mesures inédites prises pour protéger les plus vulnérables, qu'on ait trouvé et administré un vaccin en un temps record, et ils saluent aussi le goût singulier de la vie retrouvée.
Alors, il y a aussi le terrorisme, autre plaie de notre société.
Oui, alors des attentats continuent de nous endeuiller. Hein. On s'inquiète de la progression de l'islamisme. Certains agitent la menace rien moins que d'un basculement de civilisation. Cela étant, des attentats ont été déjoués, les victimes sont moins nombreuses, notre renseignement est plus performant, nous-mêmes sommes plus lucides. Il y a donc des raisons de moins désespérer.
Parlons d'écologie, Philippe.
Si on en croit le pré-rapport du GIEC, hein, des villes côtières seront bientôt englouties, nous aurons droit à des canicules extrêmes, des pénuries d'eau, des famines, des migrations importantes. Des espèces sont en voie de disparition et l'humanité elle-même est menacée. Mais si on regarde le verre à moitié plein, on peut se féliciter de constater que les citoyens se sentent de plus en plus concernés, qu'ils sont de plus en plus acteurs du changement. La jeunesse manifeste et se mobilise partout en faveur de l'environnement. L'accord de Paris a été renforcé par le retour des États-Unis et l'écologie politique, elle va en poupe.
Alors, la culture, un sujet qui vous est cher.
Ouais, écoutez, les théâtres, les cinémas et les salles de concert, on le sait, ont été longtemps fermés. Eh bien, les théâtres, les cinémas, les salles de concert sont désormais rouverts.
Et qu'en est-il de ce qu'on appelle les sujets de société ?
Oui, alors là, nous avons vu à l'œuvre, à gauche, les promoteurs de la cancel culture, les tenants d'un féminisme misandre et excluant, les sympathisants de l'islamo-gauchisme, et à droite, les défenseurs d'une homophobie qui ne dit pas son nom, ou les récidivistes de la provocation à la haine raciale. Eh bien, au milieu, certains persistent à faire l'éloge de la nuance, de la complexité, à se réjouir de la libération de la parole, de l'extension de la PMA à toutes les femmes, et chante, eh bien oui, une ode à la diversité.
Bien, et l'ambiance générale, pas tellement bonne en
Non, pas terrible, on peut le dire, hein, c'est une évidence. Si on s'en tient au brouhaha, des polémiques permanentes, des invectives incessantes, si on additionne les clashs, les bad buzz, si on observe la dictature exercée par les trolls, ou si on constate l'emprise grandissante des complotistes, des catastrophistes et des radicaux de tout poil. Mais ben, on peut aussi se féliciter que la France reste le pays du débat d'idées, vérifier que les compromis demeurent nécessaires pour avancer, observer l'échec électoral des partis extrémistes et se dire qu'au final, c'est toujours le vivre ensemble qui l'emporte.
Alors même les vacances qui s'annoncent n'échappent pas à cette différence d'approche, selon vous.
Oui, absolument. Alors quand certains se plaignent que ces vacances soient sédentaires et menacées par le variant Delta, et ben d'autres se réjouissent qu'elles soient enfin possibles, notamment grâce au pass sanitaire. Ceux-là suivront avec bonheur le Tour de France, le Festival de Cannes, les Jeux Olympiques, la finale de l'Euro et se retrouveront aux terrasses des cafés.
Et pour conclure demain, alors ?
Eh bien, ces analyses semblent si irréconciliables que nous devrons peut-être choisir entre deux visions opposées de la même société. Oui, choisir notre camp, en somme, entre le catastrophisme et l'optimisme, entre les passions tristes et les combats nobles. J'ai l'impression que cela a même déjà largement commencé.
Bien, merci mon cher Philippe Besson et permettez-moi de vous dire que ça a été un plaisir de vous avoir à mes côtés pour votre carte blanche si bien menée tout au long de l'année.
Plaisir partagé Julien, merci beaucoup.
Europe 1, Julien Bugier.
19h17, vous restez avec nous dans quelques secondes. Le Club des idées. Tiens, on va parler des retraites. Un sujet ô combien sensible, mais très important pour notre quotidien avant ce match qui nous attend des Bleus face à la Suisse. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir dans le Club des idées, le retour de la réforme des retraites. Oui, c'est un peu l'arlésienne du quinquennat qui refait surface avec l'idée d'un scénario d'un report rapide de l'âge de départ à 64 ans. Des proches du président de la République l'encourageraient à accélérer les choses avant la fin du quinquennat pour tenir évidemment l'engagement qui avait été fait et pour réaliser d'importantes économies, 14 milliards d'euros environ dans la durée. Alors faut-il préparer les esprits à travailler plus ? Est-ce une réforme inévitable ? À quel âge partent les autres aussi autour de nous, en Europe notamment. On en parle donc ce soir avec nos invités, notamment Michaël Zemmour. Bonsoir. Vous êtes économiste, maître de conférence à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. On en parle avec Brice Teinturier. Bonsoir Brice.
Bonsoir Julien.
Directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Et on en parle avec Éric Heyer. Bonsoir Éric.
Bonsoir.
Économiste, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Catherine Perret, représentante retraite de la CGT, sera également avec nous tout à l'heure par téléphone. Michaël Zemmour, je commence avec vous. Est-ce que c'est une certitude, d'abord, pour poser les choses, il faudra à l'avenir travailler plus pour assurer la pérennité de nos retraites ?
Non, il n'y a pas de danger financier pour le système de retraite. Je sais que c'est un argument qui est souvent brandi, une bombe à retardement financière. On a eu un rapport du Conseil d'orientation des retraites qui est sorti il y a 2 semaines et qui dit deux choses. Il n'y a pas de danger sur le financement des retraites. Et par ailleurs, il y a un enjeu sur le niveau des retraites dans les années à venir. Mais par contre, travailler plus et plus tard, c'est déjà le cas. Il y a eu des réformes passées qui n'ont pas produit tous leurs effets. Aujourd'hui, l'âge moyen de la retraite, c'est plutôt 63 ans. Oui. Il va continuer à évoluer jusqu'à 64 ans,
un
même
moins,
sans réforme.
62 ans et demi.
Alors, ça dépend comment on compte, mais oui, 62 ans et demi, 63 ans.
Alors, dans le cadre d'une réforme rapide, l'âge de départ serait, je parle sous votre contrôle, messieurs, reculé de 6 mois en 6 mois. La première génération concernerait celle née en 61 et ainsi de suite pour les 3 générations suivantes, ce qui veut dire que l'âge de départ à 64 ans s'appliquerait à ceux qui sont nés en 1964. Est-ce que, Éric Heyer, repousser l'âge de la retraite à 64 ans dans un délai très bref, c'est-à-dire d'ici la fin du quinquennat, c'est réaliste ?
C'est réaliste. Vous pouvez toujours essayer de le faire. Il n'y a rien qui vous en empêche. En revanche, on sait que les conséquences à très court terme, quand vous le faites, ça peut être des effets qui vont en sens inverse de ce que vous voulez. En fait, ce que vous voulez, c'est qu'il va falloir qu'on soit de plus en plus nombreux à travailler si on veut continuer à financer nos retraites à la limite. Mais si vous allez trop vite dans l'âge de départ à la retraite, il est à très court terme, on sait que ça a des effets sur l'emploi des jeunes et sur le taux de chômage. C'est-à-dire que l'effet à moyen-long terme sur le taux d'emploi, il est plutôt positif, on va dire, il y a des petits doutes, mais il est plutôt positif. Mais à court terme, on sait que dans une période en plus où on est encore en récession, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production, le PIB, même si ça va mieux, on est encore à peu près 5 points en dessous du niveau normal, du niveau de 2019. Donc vous voyez, aujourd'hui, on a des craintes sur la hausse du chômage. Si vous augmentez tout de suite l'âge de départ à la retraite, là, il est quasi certain que le chômage va augmenter, donc que les cotisations... Alors, il est possible
mais
que vous régliez...
Mais il y a quand même, Éric Heyer, un consensus général autour du fait qu'il faut réformer nos retraites et qu'il faut sans doute travailler plus longtemps. La longévité de nos anciens et des générations demain sera plus importante, les actifs seront plus importants, et le système de retraite est à bout de souffle. Il constitue le premier poste de dépense publique, 13,5% du PIB, 328 même milliards d'euros en 2019. Est-ce que c'est tenable sans allonger la durée de cotisation et le départ en retraite?
Non, alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Alors, effectivement, on a un système qui consacre à peu près 14 points de PIB, on va dire. Donc, c'est vrai que ça, c'est important, mais il faut... Vous voyez, c'était un choix collectif, et ces 14 points de PIB, vous les retrouvez dans le fait qu'on a aussi le taux de pauvreté des retraités le plus faible des pays européens. Donc, c'est un transfert que l'on fait des actifs vers les retraités. Est-ce que 14 points de PIB est un bon niveau ? Il y a en tout cas des raisons de l'expliquer, et on est heureux d'avoir un taux de pauvreté plus faible que les grands pays. Alors après, on peut dire, tant pis, on va le réduire, mais le taux de pauvreté va augmenter. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, on vit de plus en plus longtemps, et si l'espérance de vie augmente...
Pourquoi vous dites que le taux de pauvreté va monter? On peut avoir des retraites à taux plein qui soient des niveaux acceptables et travailler plus longtemps.
Alors, oui, alors d'accord. Enfin, l'idée aujourd'hui, alors c'est vrai que si vous dites, OK, on travaille de mais ceux qui n'arrivent pas à travailler jusqu'au bout n'auront pas leur retraite à taux plein. Donc, il y a quand même une grande chance aujourd'hui.
Ça, c'est la question de l'emploi des seniors.
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, il faut le taux d'emploi des 55-64 ans est de 50%. Ça veut dire qu'il y en a un sur deux qui ne travaille pas. Donc, vous voyez, si vous augmentez l'âge de départ à la retraite, ces personnes-là vont rester plus longtemps soit au chômage, ne vont pas avoir leur taux plein. Et donc, leur pension va diminuer. Alors c'est sûr, vous pouvez compenser, c'est pour ça que c'est un peu compliqué comme question. C'est-à-dire que vous pouvez toujours augmenter l'âge de départ à la retraite, mais donner un minimum vieillesse plus important. Enfin, donc il va falloir regarder la réforme. Mais si la réforme est de faire des économies...
Et puis inciter les entreprises à embaucher des seniors ou à garder leurs seniors alors, aussi dans leur rang.
Ok, non mais, alors, il faut essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui les entreprises ne désirent pas garder leurs seniors et pourquoi le taux d'emploi est faible. Vous voyez, donc il est possible qu'il faille réfléchir à la formation tout au long de sa vie pour que la productivité ne décroisse pas au bout d'un certain âge. Donc, c'est une réforme bien plus globale, mais que, effectivement, si on vit en meilleure santé et qu'on travaille plus longtemps, je pense que c'est une bonne idée, effectivement, mais ce n'est pas forcément avec l'âge de départ à la retraite qu'on va y arriver.
Brice Teinturier, sur cette idée de travailler jusqu'à 64 ans, il se dit dans l'entourage du président de la République que certains de ses proches veulent accélérer pour que le président ait cette réforme à son bilan arrivée à l'élection en 2022. Est-ce que les Français y sont sensibles à cette question, l'âge de départ à la retraite ?
Ils y sont plus que sensibles. D'abord, ils sont inquiets, à tort ou à raison, donc, quant à l'avenir du système de retraite, 78% dans notre dernière mesure se dit inquiets sur l'avenir du système de retraite. Ils sont particulièrement inquiets de manquer d'argent. C'est vraiment ça, la hantise. C'est 85% ont cette crainte au moment d'arriver à la retraite, de ne pas avoir assez d'argent pour vivre correctement. Et quand vous posez la question aux retraités, ça c'est intéressant, est-ce que vous avez suffisamment d'argent pour vivre correctement ? Eh bien, ils vous disent, eux, à 65% que oui, ce qui va dans le sens de ce que vous venez d'indiquer sur le fait qu'on arrive à préserver dans ce pays des retraites qui permettent aux gens, malgré tout, de vivre à peu près correctement. Maintenant, quand vous rentrez dans le détail des mesures, de ce qu'ils souhaitent et de ce qu'ils ne souhaitent pas, ce qu'ils souhaitent le moins, ce qu'ils ne souhaitent pas, c'est un recul de l'âge de départ en retraite. Quitte à arbitrer sur les paramètres, ils privilégieraient plutôt une hausse des cotisations tout au long de la vie qu'un recul de l'âge de la retraite. Donc si demain, on a une réforme qui, sur ces aspects-là, dit en plus dans un laps de temps assez rapide, on recule l'âge de la retraite de 2 ans, vous pouvez être quand même à peu près assuré que vous aurez une réaction chez les Français qui sera une réaction négative. Oui. Peut-être de résignation ensuite, mais qui sera une réaction négative. En tous les cas, ça ne va pas du tout dans le sens de ce qu'eux préféreraient, quitte à devoir faire des sacrifices.
Michaël Zemmour, on peut pérenniser le système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui sans étendre l'âge de départ à la retraite ?
Oui, c'est vraiment un choix de société. Il faut prendre un peu de recul et voir que effectivement la situation actuelle des retraités n'est pas mauvaise, mais on est déjà sur la pente descendante. C'est-à-dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y avait une amélioration des retraites et de la durée de retraite. Et en fait, depuis une dizaine d'années, les retraites ont tendance à se raccourcir du fait des réformes, la réforme de retraite à 62 ans, 42 ans de cotisation. Et le niveau des retraites commence à baisser. Et en fait, les projections nous disent que sans aucune réforme, les retraites vont continuer à baisser. Et la retraite ne va pas s'allonger. Donc souvent, on prend l'argument, et ça a été dit tout à l'heure, on vit plus longtemps, il est normal de travailler plus longtemps, peut-être, mais simplement, cet allongement de l'espérance de vie, il a déjà été mangé
oui.
par les précédentes réformes.
Et puis beaucoup disent aussi, on est en meilleure santé aujourd'hui à 61 ans, à 62 ans, qu'on l'était il y a 20 ans ou il y a 40 ans, quand François Mitterrand décide d'abaisser à 60 ans l'âge de départ à la retraite.
Alors qu'il y a 40 ans, c'est sûr. Effectivement, il y a 40 ans, la retraite, c'était vraiment un âge où on ne pouvait plus faire grand-chose. Par contre, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on garde l'idée d'une retraite comme un temps libéré pour un certain nombre de personnes ou est-ce qu'on attend de ne plus pouvoir rien faire pour partir à la retraite? Et là, effectivement, c'est les choix
c'est
devant lesquels
on est. C'est un choix philosophique que vous nous évoquez maintenant. 19h28, on continue d'en parler après la pause avec nos invités, avec des extraits sonores et puis avec la représentante retraite de la CGT. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, ce soir, avec nos invités dans le Club des Idées, on continue d'évoquer le retour de la réforme des retraites qui pourrait donc se réaliser finalement, après des mois et des mois d'hésitation, avec ce retour de l'âge de départ à 64 ans. Vous vous souvenez que c'est Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, qui avait porté cette réforme systémique des retraites avec ce fameux système à points. Alors, vous parliez tout à l'heure, Michaël Zemmour, d'une approche presque philosophique. La retraite, c'est quoi? Est-ce que c'est arrêter de travailler pour profiter ou est-ce que c'est continuer à travailler au-delà de 60, de 61 ans et pourquoi pas de 64 ans? On verra que d'ailleurs, de ce point de vue-là, les Allemands travaillent beaucoup plus que nous, partent à la retraite en tout cas beaucoup plus tard que nous. Voilà à ce propos ce qu'aurait pu vous répondre Édouard Philippe, c'était il y a quelques semaines au cours de la tournée de promotion de son livre coécrit avec Gilles Boyer, Impressions et lignes claires.
Pendant longtemps, le progrès a été vu à l'aune du « on va travailler un peu moins tout au long de sa vie ». Moi, je pense que le progrès de demain, c'est de faire en sorte que nous puissions conserver une forme de prospérité et de souveraineté et que ça passe par un travail qui est heureusement moins pénible aujourd'hui qu'il l'était il y a 100 ans et qui sera probablement un peu plus long au cours de la vie parce que la vie est plus longue.
Voilà, qu'est-ce que le progrès? Vous avez 3 heures, Eric, hier.
Non, mais il est évident que le progrès technique, ça sert à ça aussi. Hein. Ça sert effectivement à avoir un peu plus de temps libre. Et la réduction du temps de travail au sens large, hein, bah, on la voit dans tous les pays développés. On travaille moins aujourd'hui qu'on travaillait avant. Et c'est bien le progrès technique qui nous permet de le faire. On n'a jamais créé autant de richesses par habitant. Aujourd'hui, on est beaucoup plus riche, en corrigeant de l'inflation, de tout ce que vous voulez. Et on arrive aussi à travailler un peu moins longtemps, mais ça, c'est le progrès technique qui nous le permet.
Mais au-delà des ressorts purement économiques, et on y reviendra tout à l'heure, sur un plan philosophique, aujourd'hui, on a un taux de productivité qui est l'un des plus importants en France par rapport à nos voisins européens, par salarié, par individu. Il y a l'avantage des machines, il y a l'automatisation, il y a l'accompagnement sur des métiers qui sont de moins en moins pénibles. Est-ce qu'il n'est pas logique, de ce point de vue-là, de travailler de façon moins dure quotidiennement, mais plus longtemps dans la durée?
Non, mais on peut essayer de réfléchir à arriver un peu plus tôt sur le marché du travail, et même, pourquoi pas, à partir un peu plus tard. Mais tout cela, ça doit être réalisé de façon d'abord un peu plus concertée. Vous voyez, on parlera peut-être un peu du rapport Blanchard-Tirol. Moi,
je trouve qu'il
y a un élément intéressant, c'est qu'il nous explique que toute réforme, ça met à peu près 3 ans à être expliquée, les réformes de retraite, dans à peu près tous les pays étrangers. Donc, quand on ait ce débat en France, savoir est-ce qu'on doit jouer sur l'âge ou sur la durée, parce que vraiment, la durée, c'est un autre paramètre qui est... Ouais. Je parle sous contrôle de Brice Ceinturier, qui est bien plus accepté, parce qu'effectivement, si j'ai commencé à travailler tôt, j'aurai travaillé mes 42 annuités, à la limite, ou 40.
Mais pour beaucoup de salariés, ça revient à la même chose.
Parce que le nombre
d'annuités nous emmène au-delà de 64 ans. Quand on a fait quelques années d'études.
Non, mais d'accord, mais si j'ai commencé un travail pénible, j'ai commencé à 18 ans, on n'est pas au même endroit. Donc, je pense que la durée de cotisation est une façon de permettre aux gens, et d'ailleurs, mais Michaël Zemmour l'a rappelé, on a déjà fait des réformes où on a augmenté cette durée de cotisation, et ça permet de rendre la réforme un peu plus juste, parce que ceux qui ont travaillé plutôt et qui ont une espérance de vie plus courte aussi, au moins pourront bénéficier un peu plus longtemps de
la
retraite.
Vous parliez du rapport d'Olivier Blanchard et de Jean Tirole. Jean Tirole, prix Nobel d'économie. Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI, qui dit dans un rapport rendu le 24 juillet dernier au président de la République Emmanuel Macron, il faut mettre en place le principe d'une retraite par points et non plus par trimestre. En fonction de son revenu, chacun cumulerait des points, convertis ensuite en euros au moment de son départ à la retraite. En somme, c'est la réforme systémique voulue par le président de la République.
Je pense que dans ce que voulait le président de la République, c'était 3 réformes. Il y avait une réforme où il voulait unifier tous les régimes. Ça, c'est intéressant, mais vous n'êtes pas obligé de passer par une réforme à points. Vous pouvez le faire aussi par annuité. Donc, il y avait le premier point, c'était on fait un régime universel. Le deuxième, c'était, mais attention, quand vous faites un régime universel, ben, il y a des gagnants et des perdants.
Oui.
Et c'est pas forcément là où les perdants ne sont pas forcément là où on croit de façon systématique. Mais là, vous rajoutez une deuxième réforme qui était, en plus, on passe de l'annuité au point. Et donc là, là aussi, uniquement cette réforme-là, ben, ça vous fait d'autres perdants et d'autres gagnants. Mmh. Et vous rajoutez une troisième réforme qui est la paramétrique. Et où ça fait encore des gagnants et des perdants. Vous voyez là, le problème, c'est qu'on mettait beaucoup trop de réformes ensemble, avec beaucoup trop de perdants
mais
dans tous les
cas. Mais cette idée de système à points était quand même présent dans le projet de réforme.
Ah, mais c'était présent. Mais avec, avec cette idée qu'on ne pouvait unifier les régimes qu'avec le point. Non, on peut unifier les régimes sans passer
en
par
tout cas,
point.
C'est ce que préconise Olivier Blanchard et le prix Nobel Jean Tirole. Brice Teinturier.
Mais là, on est dans la mécanique des réformes, des différentes réformes possibles. Moi, je voudrais juste revenir sur quand même cette question importante, pourquoi est-ce que les Français ne veulent-ils pas travailler plus longtemps ? Et je pense qu'on touche sur leur relation au travail, et que le point clé, c'est celui-là. Il y a deux traditions dans l'histoire des idées sur la relation au travail. Il y a une tradition qui dit que le travail civilise l'homme contre la nature, et que l'homme se réalise par le travail. Puis il y a une autre tradition qui dit que non, le travail aliène l'homme. Si vous mettez en parallèle ces deux traditions et que vous regardez la vision qu'ont les Français aujourd'hui du travail, vous avez des visions extraordinairement différenciées suivant les secteurs. L'idée que finalement la productivité a augmenté, que l'outil technique est là pour nous soulager, que finalement travailler c'est assez formidable et qu'on pourrait continuer très longtemps, est une idée qui fonctionne chez une partie des cadres, mais pas du tout dans des pans entiers de la société. Et c'est ça, je crois, qu'il faut prendre en compte. Si on ne se dit pas qu'il faut s'interroger sur pourquoi les Français ne veulent-ils pas travailler plus, pourquoi est-ce qu'ils mettent dans la retraite, à tort ou à raison, mais c'est ce qu'ils y mettent, un moment de liberté retrouvée, un moment d'autre vie, on ne pourra pas, quels que soient les mécanos ensuite de construction du système de retraite, on ne pourra pas les embarquer dans quelque chose qu'ils accepteront.
Oui.
Donc, il me semble qu'il faut partir malgré tout de ça. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce pays pour qu'autant de Français refusent l'idée d'un allongement de la durée du travail ?
Bien, et quelle réponse on peut y apporter, Michaël Zemmour ? Parce que sur un plan philosophique et sur un plan de société, c'est évidemment une question qu'on peut se poser. Et puis après, il y a les ressorts économiques.
Mais c'est une question très concrète. Hein.
Il y a
c'est
les
pas
ressorts
une philosophie éthérée. C'est vraiment comme ça que les gens se posent.
Mais vous savez, c'est comme les éoliennes. Tout le monde est d'accord pour les éoliennes, mais personne n'en veut à côté de chez soi. Ben, les retraites, c'est pareil. Tout le monde est d'accord pour l'allonger, mais personne ne veut travailler au-delà de l'âge de départ à la retraite légale.
Alors justement, il y a un premier enjeu. C'est Bruno Palier qui disait ça ce week-end dans une tribune au Monde, c'est de travailler jusqu'à l'âge de la retraite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'image du pot de départ en retraite au boulot et puis le lendemain on est à la retraite, c'est une image fausse. Il y a une personne sur deux qui n'est plus en emploi au moment de prendre sa retraite. On passe un an, deux ans, trois ans entre l'emploi et la retraite. Et donc un vrai enjeu pour améliorer l'emploi des seniors...
Vous l'évoquiez tout à l'heure, Eric, hier, j'ai les chiffres sous les yeux, 30% d'emploi après 60 ans. Ça veut dire un senior sur trois qui travaillent après 60 ans. Donc s'il faut aller jusqu'à 64 ans, il va falloir trouver des entreprises qui veulent bien continuer à embaucher ces seniors-là.
C'est ça. Et donc ça veut dire améliorer les conditions de travail, former. Il y a à la fois des employeurs qui se débarrassent ou poussent vers la sortie, notamment en période de crise, les salariés. Et puis des salariés qui sont usés et qui saisissent les opportunités. Et donc si on veut, même économiquement, avoir plus de cotisations, améliorer les conditions de travail et d'emploi des seniors, c'est possible. Et puis l'autre idée, c'est que si on veut travailler plus longtemps, aujourd'hui on peut. Et d'ailleurs, on est même encouragé à ça parce qu'on touche des bonus. Donc là, la question de la réforme, c'est d'empêcher de partir à 62 ans.
Que répond le gouvernement d'ailleurs, Éric Heyer, à cette problématique abyssale du taux d'emploi des seniors, quand on lui rétorque que travailler plus tard, ça veut forcément dire que les entreprises doivent jouer le jeu ?
Alors, ce gouvernement-là, en tout cas, nous explique que globalement, le taux d'emploi de ces seniors, qui est aujourd'hui, alors si on prend les 65-64, qui est de 50%, alors effectivement, si on fait les 60, il est à 30%, était 10 points en dessous avant les réformes. C'est que globalement, il s'améliore aujourd'hui, et il s'améliore grâce aux réformes des retraites, c'est-à-dire qu'en augmentant l'âge de départ à la retraite, ça incite finalement les seniors à rester et ça nous permet de revenir à un taux d'emploi qui effectivement aujourd'hui est encore plus bas que la moyenne. En gros, si on est encore sur les 55-64, il est à 50 chez nous alors qu'il est à peu près à 60-65 ailleurs. Donc on est en retard et donc c'est par la réforme en fait et par cette réforme-là qu'on va le faire. Donc là, c'est une corrélation, il n'y a pas réellement de causalité, mais c'est ça la réponse du gouvernement. Et si je peux me permettre juste de revenir sur ce que disait Brice Teinturier, c'est-à-dire que globalement, il y a des enquêtes sociologiques qui sont menées sur 185 pays et ça parle de la valeur travail. Quand on questionne les Français sur la valeur travail, surprise, les Français sont tout en haut. De mémoire, on est 35e sur 185, mais premier pays développé et premier pays européen. C'est-à-dire que la valeur travail, les Français la mettent tout en haut. En revanche, des questions un peu plus tard sur est-ce que vous vous épanouissez au travail, est-ce que vous voulez rester, là, on est avant-dernier. Je crois, de mémoire, on est 182e sur 185e. C'est-à-dire que c'est bien ça le problème, c'est que
vous savez,
on sait que c'est par le travail.
Les Français sont des éternels défaitistes.
Mais oui, mais c'est-à-dire que on sait que la valeur travail, c'est important, travail, c'est important, mais je ne m'épanouis pas au travail et dès que je laisse une possibilité pour partir, eh ben, je m'enfouis. Donc, une pré-retraite, je pars.
On va marquer une nouvelle pause, Brice Teinturier, je vous donne la parole juste après, 19h40. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir comment font les autres qui travaillent pour certains beaucoup plus tard. Mais vous m'apporterez les réponses dans quelques secondes. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Les retraites suite, on continue d'en parler. La réforme des retraites, dont l'âge pourrait s'allonger, départ à 64 ans. C'est en tout cas une piste évoquée par des proches du président de la République pour une application rapide avant la fin du quinquennat. On est en ligne avec Catherine Perret, représentante retraite de la CGT. Pardon. Bonsoir.
Bonsoir.
La retraite à 64 ans, c'est une hypothèse pour vous ?
Alors, permettez-moi d'abord d'apporter mon soutien aux journalistes d'Europe 1 là, qui sont mobilisés pour justement leur travail et soutenir l'action du 30
Bien.
Juin qui est d'ores et déjà prévu.
Alors.
C'est important parce que quand on parle de retraite, on parle évidemment, et vos invités viennent de le dire, de la qualité du travail. Et il me semble que les journalistes justement sont très attachés à ça. Alors sur les projets de réforme qui apparaissent effectivement depuis quelques jours là sur le passage à 64 ans, bah, je crois que vous avez déjà évoqué des éléments extrêmement importants. À partir du moment où moins d'un salarié sur deux est à l'emploi à 60 ans, il faudrait que le gouvernement nous explique comment il va faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Or l'objectif, c'est pas tellement de reculer l'âge de la retraite, c'est de faire baisser le taux des pensions, le taux de remplacement, donc de faire des économies encore sur le dos des salariés plus rapidement. Et donc, c'est ça qui est évidemment à nouveau dans les
Bien.
Dans les tablettes du
gouvernement. Catherine Perret, pour revenir à un petit point qui était évoqué tout à l'heure, au fond, est-ce que vous avez la conviction qu'on peut s'épanouir dans le travail ?
Bien sûr, on peut s'épanouir dans le travail et la plupart des salariés aiment leur travail et ont envie de bien travailler. Mais les conditions dans lesquelles ils travaillent aujourd'hui ne sont pas suffisamment satisfaisantes. Si moins d'un salarié sur deux est encore en emploi à 60 ans, c'est bien parce qu'il y a une politique patronale qui est fondée sur la productivité à outrance et donc qui jette dehors des salariés plus âgés, et y compris par exemple des cadres qu'on considère comme incapables de continuer à bien travailler après 50 ans.
Oui.
C'est bien parce qu'il y a aussi énormément de salariés qui sont en inaptitude, en invalidité, qui sont cassés par le travail. Je vous prends un exemple très très simple, hein. Les aides à domicile.
Oui.
Tout le monde reconnaît, les salue, les applaudit, et tout le monde reconnaît qu'elles font un travail difficile. Eh bien, l'âge moyen d'inaptitude pour les aides à domicile, c'est 52 ans. Donc, tant qu'on n'agit pas sur les conditions de travail, on ne peut pas envisager même de permettre aux gens de travailler
Bien.
Jusqu'à l'âge légal aujourd'hui.
Bien. Merci.
Donc l'objectif, il est tout autre.
Merci,
c'est un objectif idéologique et économique qui est
Message
destiné
entendu.
À faire baisser
le taux de
remplacement des pensions.
Merci Catherine Perret pour ce témoignage. C'est vrai ce qui vient d'être dit, Brice Teinturier, c'est également ce que vous observez. Il y a quand même une volonté de se séparer d'un certain nombre de salariés quand ils arrivent à maturité, quand ils arrivent à plus de 55 ans.
Ça, c'est plus davantage la statistique économique qui permettrait de le fonder. Ce que moi je vois à travers les enquêtes, en revanche, c'est que oui, les salariés, les collaborateurs des entreprises privées sont attachés en réalité à l'entreprise. Les niveaux d'engagement en France sont bons. L'entreprise apparaît souvent à la fois comme un lieu de sociabilité, comme un rempart par rapport à un monde extérieur qui peut être extraordinairement menaçant et anxiogène. Mais une fois qu'on a dit ça, on a aussi des méthodes de management qui doivent évoluer parce que les attentes, elles sont là, parce que les individus ont de plus en plus besoin d'être responsabilisés, autonomisés. Et que si on a de la productivité, c'est parce qu'on a fait aussi de l'hyperspécialisation. Mais quand on fait l'hyperspécialisation, on perd la vue d'ensemble.
Oui.
Et à ce moment-là, on recrée de l'ennui au travail ou du désœuvrement.
Oui.
Donc une mécanique, encore une fois, qui vise à améliorer le système des retraites, ce que tous les Français veulent. Elle doit prendre en compte ces questions de management et de relations.
Je vais faire un parallèle avec la réforme de l'UNEDIC. On a tendance à l'attraper par un petit bout. C'est une réforme d'ensemble, si on veut la mener correctement. Ce serait par exemple la formation professionnelle pour l'UNEDIC. Ce serait par exemple la réforme du management pour la réforme de retraite, si on voulait accompagner cette allongement.
C'est pour ça que ça ne dépend pas que de l'État et que l'enjeu, il est colossal, mais ça dépend aussi de l'ensemble des managers, et la situation elle est pire dans la fonction publique que le secteur privé, hein, au passage. Mais ça dépend aussi des acteurs économiques dans leur ensemble, s'ils sont capables de renforcer les liens au travail, de faire évoluer leurs pratiques de management, d'améliorer la possibilité et l'envie de rester plus longtemps au travail, vous aurez moins de réticence à l'idée d'un recul de l'âge de départ en
Alors,
retraite.
Alors, comment font les autres ? C'est une question qu'on se pose parce que quand j'ai préparé cette émission, j'ai regardé un peu ce qui se faisait ailleurs. En Europe, en Angleterre par exemple, l'âge de départ est aujourd'hui à 66 ans. Alors peut-être que c'est une situation qui n'est pas enviable, mais tout de même, c'est 4 ans de plus que nous. En Allemagne, 65 ans et 8 mois, et l'âge de départ à la retraite passera à 67 ans en 2029. Comment font-ils, Michaël Zemmour ?
Alors, d'abord, quand on prend des statistiques pour comparer, il faut faire attention aux détails. Mais globalement, effectivement, en France, on travaille un peu moins longtemps que dans les autres pays. Ce qui se passe aussi, c'est qu'en France, la situation des retraités est plutôt meilleure que dans les autres pays. C'est-à-dire qu'il y a moins de pauvreté des seniors, très nettement. Et puis en France, on a fait le choix d'une...
Donc on a fait un choix de société.
On a fait un choix de société et on a fait un choix d'une retraite 100% publique. Dans les autres pays, pour avoir une retraite correcte, il faut mixer votre retraite publique et une retraite privée par capitalisation, soit dans votre entreprise, soit à titre individuel. Et ce qu'on voit quand on compare les pays, c'est que les retraites sont plus faibles dans les autres pays, mais aussi on a des gens qui s'appauvrissent et qui doivent cumuler emploi et retraite. C'est le cas en Italie, c'est le cas en Angleterre. Vous avez des travailleurs très âgés, souvent plus en condition de travail en sécurité, et qui poursuivent pour compléter leur retraite. Donc c'est la limite de ces taux d'activité à des
âges très élevés. C'est le film de Ken Loach, d'une certaine manière. Eric Ayer, même question, c'est ça aussi la différenciation par rapport à ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire qu'ils travaillent plus longtemps, mais ont des niveaux de paupérisation des seniors plus importants que chez nous ?
Oui, c'est ça. Alors, effectivement, on l'a dit au tout début, 14 points de PIB quasiment pour nos retraites, quand la moyenne tourne plutôt aux alentours de 10-11. Donc, on met beaucoup plus d'accent sur cette redistribution-là. Alors, attention, ce n'est pas exactement les mêmes champs, mais ça, Michael en a déjà un peu parlé. Donc, effectivement, c'est un vrai choix de société. Oui. Mais ce qu'il faut quand même le dire, mais ça a déjà été dit, mais je vais quand même le rappeler, c'est qu'on a fait des réformes tout de même, qui, en désindexant finalement les pensions des salaires, va faire que progressivement, eh ben les pensions vont baisser en France. Alors attention, hein, alors ce sont des réformes qui passent un peu inaperçues. C'est la réforme de Balladur notamment. Mais vous paupérisez petit à petit. Vous voyez, oui, on a des rapports. Hein, ça a bien été fait par la Commission européenne, l'Aging Report, qui indique bien que pour l'instant, on dépense 14 points de PIB et c'est plus qu'ailleurs. Mais qu'à l'horizon 2050.
C'est quoi le niveau moyen d'une retraite aujourd'hui en France ?
Ah, ça, je ne l'ai pas exactement en tête, ce chiffre-là, je suis désolé. Mais en tout cas, ça va baisser progressivement, alors que dans les autres pays, ça va plutôt augmenter. Donc attention, ce qui était une vérité aujourd'hui ne le sera pas, mais à réforme inchangée. Hein. C'est-à-dire on n'est pas obligé de mettre une autre réforme. Et donc c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà acté le fait qu'on va un peu moins transférer des actifs vers les retraites.
Bien. C'est ce que les Français ont intuitivement compris, hein, quand ils s'inquiètent justement sur ce qu'ils auront quand ils seront à l'âge de la retraite, sans avoir tous les paramètres, ils ont l'intuition que de toute façon, il y aura une paupérisation accrue.
Bien. Paris compliqué pour le président de la République, Brice Teinturier, vis-à-vis de l'opinion publique, s'il va jusqu'au bout de cette réforme accélérée.
Oui, pareil, extraordinairement compliqué, parce que la réforme de retraite, ça a toujours été des réformes, quels que soient les gouvernements, qui ont beaucoup généré d'opposition, clivé la population, etc. Donc c'est compliqué, parce que d'un côté, il doit envoyer des signes forts pour dire la volonté transformatrice qui était ma promesse originelle, je la tiens, et je vais continuer à réformer ce pays quand il en a besoin. Mais le réformer sur cette question des retraites, en passant à une réforme paramétrique, et en jouant sur le paramètre qui plaît le moins aux Français, c'est évidemment extraordinairement compliqué.
Bien, merci à tous les trois d'avoir participé à ce Club des idées sur les retraites. On aura évidemment l'occasion d'en reparler si le gouvernement bouge sur cette question des retraites d'ici à la fin du quinquennat.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, 19h50, dans un instant, les archives. Le jour où, ce soir, on remonte en 1969, le jour où éclatent les émeutes de Stonewall à New York. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du Club des Idées, 19h53. Le jour où, 3 minutes pour comprendre. On va remonter le temps ce soir en 1969.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Bien ce week-end.
Europe 1. Bonsoir Jean-Jacques Herry.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, on évoque avec vous la nuit du 28 juin 69. Il y a 52 ans, un raid de police contre un bar homosexuel à New York provoque une série d'émeutes connue sous le nom d'émeute de Stonewall. Cet événement est devenu un marqueur pour toute la communauté LGBT avec la réelle éclosion du militantisme.
Oui, avec des répercussions à partir de ce moment-là aux États-Unis et partout dans le monde. 3 ans plus tard, en 1972, a lieu la première marche en Europe avec un défilé LGBT à Londres. Les revendications se font chaque année plus visibles, même si en France, il faut attendre avril 1981 pour une vraie manifestation de masse. En pleine campagne électorale pour la présidentielle, entre 10 000 et 15 000 personnes défilent et c'est pour la première fois relayé par les médias. Le secrétaire du comité d'urgence anti-répression homosexuelle témoigne sur Europe 1 au micro de Gérard Fusy.
Entre 1963 et 1975, plus de 6 000 personnes ont été condamnées pour homosexualité par les tribunaux français. Plusieurs milliers de personnes sont chaque année licenciées de leur travail pour homosexualité. Il y a des gens qui meurent car ils sont homosexuels. Le dernier en date a été Philippe Martineau, assassiné aux Tuileries au mois de mars dernier par une bande de casseurs de PD. Pour beaucoup de gens, effectivement, les homosexuels, ça ne devrait pas exister. Et ça, nous voulons montrer que non seulement nous existons, mais qu'il est hors de question que nous nous laissions enfermer, bafouer, réprimer, etc.
Plonger dans les archives de la radio permet de mieux comprendre le contexte de l'époque. Écoutez cette table ronde consacrée à l'homosexualité et diffusée le 4 février 1982. On sent que les choses sont en train de bouger.
Les pouvoirs publics, eux, ont changé leur attitude vis-à-vis des homosexuels. C'est la première fois que les organisations homosexuelles ont été reçues dans des ministères, qu'il y a eu, par exemple, des circulaires du ministre de l'Intérieur de Gaston Defferre, les Français ne le savent peut-être pas, les policiers non plus, destinés justement...
Pas encore,
mais ils vont le savoir au cours de l'émission, qui enjoignent à ne plus commettre de discrimination pour les homosexuels.
Oui, avec une visibilité de plus en plus grande pour les LGBT, la Gay Pride devient alors un rendez-vous rituel, Jean-Jacques.
Des marches chaque année, effectivement, au mois de juin, en mémoire justement des émeutes de Stonewall. Sébastien Le Belzic suit le cortège dans les rues de Paris en 1995.
Ambiance bon enfant, confetti, drag queen et house music, la 14e Gay Pride a tenu ses promesses, celle d'être avant tout une fête, une lutte contre toutes les exclusions.
On est libre de faire ce qu'on veut dans la rue, puis c'est une journée de fête, c'est tout. Nous, on ne se cache pas personnellement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se sent plus libre comme il y a des gays partout. Autour de nous, on se sent en communauté, on se sent plus libre de faire ce qu'on veut.
C'est la fête, c'est la fierté d'être gay.
Et puis il y a des Gay Pride qui marquent plus que d'autres. L'édition de 1999 par exemple, on fête cette année-là l'adoption à venir du PACS, le pacte civil de solidarité très important pour les couples homosexuels. Dans la foule, de nombreux politiques comme Roselyne Bachelot qui avait défendu le texte dans l'hémicycle à contre-courant de son propre camp.
J'ai un sentiment mêlé, un sentiment de satisfaction de voir une chose importante se réaliser, mais aussi un sentiment d'amertume devant tout ce qui s'est passé dans cette année, comme déferlement de haine, déferlement de rejet.
Par rapport à vos camarades du Parlement, que ce soit de gauche ou de droite, qui ont encore des a priori, vous estimez qu'il y a du boulot à faire?
Oh là! Le boulot ne fait que commencer.
Un boulot à continuer chaque jour, encore et encore. Voilà ce que l'on pouvait entendre à nouveau ce week-end dans le cortège parisien, en avançant vers de nouveaux droits, comme la PMA pour les couples lesbiens, une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron.
Merci pour ce récit, Jean-Jacques Herry. Merci à vous.
Merci beaucoup, Julien.
Europe 1, Julien Bugier.
19h56, dans quelques secondes, la grande soirée foot. Lionel Rousseau, salut Lionel.
Salut Julien.
Alors comment ça s'annonce cette soirée?
Ça s'annonce bien, ça s'annonce très très bien, avec nos experts, nos invités bien sûr, Aline Riera, Giroud, Fabien Teniente, Luc Sonore, Jean-Luc Ettori, l'ancien gardien de l'équipe de France, sera notre invité. La rencontre à suivre en intégralité, coup d'envoi à 21h avec nos envoyés spéciaux, Jean-François Pérez, Cyril de la Morinerie. Mais on jettera aussi un coup d'œil très très intéressé à ce qui se passe actuellement. Il y a des prolongations entre la Croatie et l'Espagne.
Dingue.
Un match de fou.
Un match de dingue.
Qui l'eût cru, 3 partout, les prolongations. Et figurez-vous que le vainqueur de ce match sera l'adversaire de la France. Si la France, Julien, bien sûr, se qualifie ce soir contre la Suisse.
Évidemment, 2-0.
Moi, je dirais 3.
3-0.
3-0, voilà.
Optimiste,
mon pronostic.
Optimiste, mon Lionel.
Comme souvent.
Merci, bon match et à tout à l'heure. On sera à l'écoute, évidemment. Julien Pierce, pour le rappel de l'info dans quelques secondes. Merci de votre fidélité. À demain, 18h.